Soyez les bienvenus sur Mélodie FM. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Mélodie, votre radio en Gironde.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin au petit marché à Saint-Michel-de-Fronsac. Découvrez ses produits régionaux, ses fruits et légumes en circuit court, ses produits frais, ses volailles et son porc noir, sans oublier l'épicerie et produits bio. Au petit marché vous attend du mardi au samedi dans le bourg, à Saint-Michel-de-Fronsac. Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Mélodie FM où vous nous écoutez chaque lundi à 19h. Et bien par exemple du côté de Libourne écoutera sur le 89.3 ou en pays castillonnais sur le 89.1. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire donc de cette nouvelle émission de Chut, on écoute la télé inédite, pas moins de 3 coups de cœur ciné cette semaine que l'on vous propose dans l'émission avec dans un tout petit instant Amro et Nora Hamzaoui qui seront avec nous pour la sortie en salle au cinéma du film Éléonore. Nous aurons le plaisir aussi de vous consacrer un coup de cœur ciné plateforme également, ça vient de sortir vendredi dernier sur Amazon Prime, ça s'appelle Brutus versus César. Kyron, le réalisateur, accompagné de Lina El Arabi et Pascal Demelon, seront nos invités exceptionnels. Les infos médias, bien sûr, aujourd'hui dans votre émission avec, comme invité José Dayan qui sera avec nous. Elle réalise en ce moment un Capitaine Marlowe dans notre région du côté de Royan. Elle nous dira tout évidemment sur ce Capitaine Marlowe en plein tournage. Et puis en fin d'émission, troisième coup de cœur ciné cette semaine pour le film Les Apparences de Marc Fitoussi. Benjamin Biolay à cette occasion sera notre invité exceptionnel. Vous l'avez compris, on va vraiment pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Tout de suite, voici les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on commence par lundi. L'amour est dans le pré sur M6 qui arrive en tête des audiences avec 15,7% de part de marché et 3 328 000 téléspectateurs. La garçonne sur France 2 séduit toujours autant avec 3 277 000 téléspectateurs pour 15% de part de marché. C'est Clem qui faiblit pour sa 10e saison. C'est plutôt un mauvais départ avec seulement 13,1% de part de marché et 2 710 000. Secret d'histoire s'en sort à la limite du bon score, 2 393 000 téléspectateurs pour 10,9% de part de marché. Mardi, décidément, semaine très mauvaise pour TF1 qui termine 4e de la soirée, mais premier d'abord, c'est La Stagiaire sur France 3 avec 22,5% de part de marché et 4 780 000 téléspectateurs. C'est un carton. Bon début également pour Un homme ordinaire sur M6 avec 11,2% de part de marché et 2 320 000 téléspectateurs. La suite, c'est demain. Affaire conclue sur France 2, séduit toujours autant, 2 042 000 téléspectateurs, 10,8% de part de marché. Et Descente aux enfers, pour TF1 qui passe sous la barre des 2 millions avec seulement 9,8% de part de marché avec Big Little Lies et 1 934 000. Et puis mercredi, ça ne s'arrange pas pour TF1 qui est toujours pas premier, c'est Alex Hugo avec 22,3% de part de marché, 4 770 000 téléspectateurs qui attirent toujours autant. The Resident sur TF1 donc fait 3 249 000 très loin derrière. Et puis Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal sur M6 fait un bon score lui par contre au-dessus des 3 millions avec 15,4% de part de marché. Heureusement pour TF1, la fin de semaine est meilleure puisque Grand Hôtel termine en tête des audiences jeudi et Koh-Lanta évidemment fait toujours de bons scores le vendredi. Heureusement pour la chaîne.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine consacré au film Éléonore qui sort mercredi dans les salles. Et on a de la chance parce qu'on a le réalisateur qui est avec nous aujourd'hui, Amro Hamzaoui, bonjour.
Bonjour.
Et Nora Hamzaoui.
Bonjour.
Frère et sœur, on dirait presque.
Voilà.
C'est ça.
Ouais.
Alors, un film réalisé par Amro avec le premier rôle pour Nora.
Ouais.
Voilà, Nora que vous avez peut-être pu voir déjà sur France 2 dans une émission.
Ah bon, France 2
Ah, si, si, vous avez raison, l'époque de...
On ne demande qu'à en rire.
Ah oui, oh là là, vous êtes remonté hyper loin.
Ah ouais. Ben oui, mais moi j'étais fan de l'émission, donc j'ai regardé, j'aimais beaucoup.
Ah bon.
Alors on a découvert plein de talents, comme le vôtre d'ailleurs, dans cette émission, donc c'est vrai, c'est chouette, on a découvert plein de talents du One Woman Show, pour vous en tout cas, dans cette émission.
Ouais.
Alors, Éléonore, comment est née cette histoire? Qui veut me raconter en premier? Amro?
Elle est née du désir de travailler ensemble déjà.
Amro était déjà scénariste, il avait écrit le scénario de 20 ans d'écart. On avait une volonté de travailler ensemble, on avait envie de faire un film ensemble sans pour autant écrire ensemble. Amro avait envie d'écrire une histoire et on avait envie de me faire jouer en tant que comédienne. Et on avait envie aussi de s'éloigner de mon personnage de scène et de One Woman Show et de raconter vraiment une histoire à part entière. Amro a écrit ce scénario. Il m'a offert le premier rôle.
J'avais envie, moi, d'écrire un personnage générationnel, une femme de son époque, c'est-à-dire en perte de repères, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, sur l'orientation sexuelle et même son identité féminine. C'est quelque chose que j'observe autour de moi dans cette génération des gens de 20 et 30 ans qui vivent dans un monde très différent, je pense, de celui qu'ont connu les générations précédentes. Et je dis souvent que c'est un film personnel, mais pas autobiographique. Personnel parce que c'est des ressentis que j'ai eus par rapport à mes expériences personnelles et aussi à ce que je vois autour de moi. Mais je voulais vraiment raconter ça.
Ce récit d'apprentissage d'une femme qui réussit à... qui arrête de se comparer, qui arrête de penser qu'il y a une norme et qui va s'accomplir et se découvrir elle-même, prendre confiance en elle.
En gros...
s'affranchir des normes.
Et à la fois, il y a beaucoup de poésie dans le film. Moi, je trouve aussi. C'est très poétique de la façon dont c'est écrit, filmé.
Merci. C'est un personnage qui est dans une phase de sa vie en vulnérabilité, en échec, et qui, pour sortir de cet échec, va remettre un peu les clés de son destin, de sa vie, dans les mains de sa famille, et se dire bah, peut-être qu'elles ont la bonne réponse, peut-être qu'avec elles, je vais enfin pouvoir arriver là où je dois arriver. Et qui va finalement se rendre compte que c'est peut-être pas le choix le plus judicieux.
Amro, est-ce que écrire pour sa sœur, est-ce que ça crée des petites tensions familiales ou au contraire, on s'interdit moins de choses que si on devait faire appel à une autre comédienne? Est-ce qu'on s'autorise plus de choses?
Alors,
comment ça se passe?
Vraiment, moi j'ai écrit le personnage que je pensais être le plus intéressant possible et ça aurait pu être joué par quelqu'un d'autre, mais... ce qui me plaisait dans l'idée de travailler avec Nora, en fait, c'est de montrer des facettes d'elle que les gens ont peut-être pas vues dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a fait jusqu'ici, que ce soit sur scène ou à la télévision ou à la radio, et montrer un peu l'étendue de sa palette, en fait, parce que j'avais l'impression que la sœur que je connais, finalement, a beaucoup plus
de palettes possibles.
Voilà, possible que ce qu'on connaît d'elle. Et je voulais un peu sortir de, par exemple, son personnage de scène qui a son fameux débit très rapide et construire avec elle un personnage plus introverti, plus gauche.
Qui lui ressemble un petit peu plus au niveau introverti. Je parle pas gauche, hein, mais...
Je pense qu'il y a des ressemblances, des résonances avec qui Nora est, mais pas son personnage de scène. Donc la personne que je connais, moi, dans la vie, par certains côtés. Mais en même temps, c'est pas complètement elle. Ça se nourrit de plein de choses différentes. Mais je savais qu'elle apporterait la densité humaine, l'épaisseur pour l'habiter. Et j'avais très envie de jouer de contraste. Et là, j'en viens par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la poésie, de faire coexister des moments de comédie pure, de légèreté, avec des choses plus sérieuses, plus graves, des thèmes finalement qu'on retrouve peu dans les comédies, autour de la solitude, du deuil, de choses comme ça.
Alors, on va parler d'Amro maintenant, Nora.
Oui.
Alors, il est comment comme réalisateur?
Il est très précis, très clair, très directif dans le bon sens du terme, et comme on avait vraiment... très envie, enfin, que c'est vraiment un personnage créé, que j'interprète, vraiment un personnage écrit à Amro. Il y avait cette volonté, enfin moi j'avais cette volonté de me soumettre à son désir et à son scénario, et donc fallait être très précis, autant sur le texte que sur le jeu, tout en ayant évidemment la possibilité de le surprendre et d'essayer des choses. Mais donc c'était, ça s'est vraiment passé d'une manière assez fluide. Je dirais pas que j'ai oublié que c'était mon frère, mais je veux dire que le truc fraternel n'est pas venu tellement bouleverser le travail que c'était. Moi j'ai eu l'impression de travailler avec un réalisateur avec un peu plus de charge émotionnelle, de devoir de pas décevoir son grand frère, de voilà. Mais voilà,
Est-ce que vous avez participé un petit peu à l'écriture?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Vous avez préféré rester extérieur volontairement?
Bah, on a préféré tous les deux. En fait, c'était pas. En fait, c'est comme c'est pas mon métier. Il y avait pas de raison. C'est pas mon métier. C'est pas un personnage que j'ai créé. Moi, j'écris déjà suffisamment mes propres trucs. La question s'est pas posée.
Pas posé, en fait. Ouais. Ce que Nora fait, c'est elle a sa propre écriture, son propre style, et je pense qu'on est chacun dans sa propre sensibilité. Donc ça avait pas vraiment de sens de mélanger. Et pour en revenir à la poésie et tout ça, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était de raconter le monde autour de nous en général à travers ces personnages, pas seulement à travers Éléonore, mais les personnages secondaires aussi, à savoir qu'on est dans un monde dans lequel les gens sont plus connectés qu'ils l'ont jamais été à travers les médias et les réseaux sociaux, par exemple, mais où finalement, on n'a peut-être jamais été aussi seuls. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec le Covid, c'est encore plus juste. Et je voulais raconter des personnages donc névrotiques et qui peut-être passent les uns à côté des autres, chacun enfermé dans sa solitude et sa propre bulle.
On y retrouve aussi Julia Faure au casting, qu'on a eu l'occasion de recevoir pour la mini-série J'ai deux amours avec François Vicentelli aussi. Il y a un très joli casting en même temps aussi dans ce film. Le film sort mercredi au cinéma. Moi, ce que je vous propose, on écoute tout de suite la bande-annonce. C'est parti ?
C'est parti.
Allez, Éléonore, mercredi au cinéma.
Je ne sais pas que t'es encore au lit à cette heure-ci.
Vivement que ça s'arrête, cette dépression, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure.
Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette.
J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot.
T'as voulu devenir écrivain?
Tu t'es planté.
Savoir faire un constat d'échec, parfois, si t'avais du talent, ça saurait maintenant.
Vous pensez être une psychopathe?
Un vrai cas social.
C'est sophistiqué et audacieuse. Féline.
Féline.
Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses.
Ça va pas, non ?
Mais vous faites pas chier !
Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte.
Vous croyez pas devenir d'elle, maman, c'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur.
Allez, on continue notre spécial Éléonore avec Nora et Amro Hamzaoui qui sont avec nous. Quel est votre meilleur souvenir de tournage à tous les deux ?
Moi, je ne sais pas du tout dire ça. J'ai jamais su, même sur jamais... Enfin, j'ai pas fait des tonnes de films, mais sur tous les films, c'est vraiment une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que c'est vraiment un truc... je saurais répondre sur le pire, mais pas sur le meilleur.
Alors le pire ?
Bah le pire, c'est le jour où j'ai vomi parce que j'ai fumé des cigarettes roulées à jeun et ça doit être un... Voilà, je suis désolée pour cette expérience où vous parliez de poésie juste avant et je viens de casser toute la poésie du truc. Et des scènes, voilà, la scène de sexe qui était un peu particulière d'être filmée par mon frère avec ce chef-op au-dessus de moi accroupi sur le lit,
Pour ceux que ça ferait fantasmer, il faut imaginer qu'il y a 40 personnes derrière. Hein, ça calme tout de suite, généralement.
Oui, exactement. Mais sinon, tout a été très... J'ai pas de meilleur souvenir. Tout a été vraiment très...
Vraiment, la fabrication du film, ça a été un vrai régal. J'ai eu la chance d'avoir ces comédiens merveilleux qui m'ont accordé leur confiance, dont Julia Faure, que vous venez d'évoquer, mais André Marcon, qui est formidable, Dominique Raymond, Joséphine Delabaume, Arthur Igual. Et vraiment, ils m'ont... donner encore plus que ce que j'espérais. Ils ont apporté chacun l'épaisseur humaine en plus de ce qu'il y avait sur le papier.
Eh bien, Éléonore, c'est le film qu'il ne faut pas rater. C'est mercredi, c'est au cinéma. Je vous remercie à tous les deux d'être passés nous voir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Nora, merci Emro. Et puis bon courage pour la suite.
Merci.
Hein ? Vraiment que t'apprennes à te réconcilier avec ta féminité ? Une femme doit savoir jouer de ses atouts.
Ça me va pas du tout, je suis horrible, on dirait un train.
Oh, le petit rôti. Bureau de Monsieur Graziani, ça donne envie de le frotter avec une douce d'ail.
Il y a un truc que je ne supporte pas, ce sont les fautes d'orthographe.
Je suis exactement pareil. Les fautes grammaticales, les fautes sur le pluriel, les festivals, les festivaux, on ne sait jamais, c'est le cas des... Pardon.
Et on va se retrouver donc dans un instant pour notre spécial Brutus versus César. Kairon, Lina El Arabi et Pascal Demelon seront nos invités. José Dayan nous rejoint aussi. Et Benjamin Biolay en fin d'émission. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine, eh bien pas comme les autres. Un coup de cœur ciné, eh bien plateforme avec Amazon Prime qui a mis en ligne, eh bien vendredi dernier, le nouveau film de Kairon, qui est justement avec nous, Brutus versus César. Bonjour Kairon.
Salut Alain, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous, je suis très heureux de t'avoir. Alors Brutus Vertus César, c'est ton nouveau film qui devait sortir au cinéma et qui du coup a été absorbé par Amazon Prime et qui a été mis en ligne pour les abonnés d'Amazon, donc vendredi. Moi je vous encourage vraiment à pouvoir voir ce film que j'ai pu voir moi aussi un petit peu avant tout le monde. Mais Kéron, d'abord déjà un peu la genèse du film en quelques mots. Comment est né ce projet ?
J'avais envie de faire quelque chose de complètement différent pour mon troisième film, pour surprendre mon public. Et puis en même temps, j'avais envie de traiter de l'histoire d'un traître, de réhabiliter un traître, entre guillemets, un traître célèbre. Et du coup, bah, je suis parti sur Brutus. Je voulais d'abord faire Judas, mais l'époque est compliquée. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire Jafar. Mais il y avait beaucoup trop d'histoires sur Aladdin récemment. Donc je me suis dit, tiens, Brutus, troisième choix, on le connaît sans le connaître vraiment. C'est une période qu'on aime bien voir visuellement. En même temps, en comédie, on le voit que rarement. Et allez, banco, on part sur Brutus contre César, ça peut être marrant.
Alors, le film est vraiment très drôle. Là-dessus, on part sur un César, mais c'est un vrai tyran incarné par Ramzi Bedia brillamment. Là, un tournage en plus au Maroc, dans des conditions idylliques, avec des décors somptueux. Comment on prépare un tournage comme ça à l'étranger?
Bah, on s'entoure de bonnes équipes. Un film, c'est, même si souvent vous voyez les comédiens ou les réalisateurs porter le film, en réalité, c'est un travail d'équipe tellement minutieux. C'est une horlogerie suisse. Et on s'entoure de gens ultra compétents qui ont la même vision que vous, que ce soit en déco, en lumière, en logistique, au casting, costume. Voilà, on est 300 sur un film, donc on délègue énormément et on prend les compétences de chacun, on se fait confiance. Et j'ai la chance d'être très, très bien entouré par des gens ultra compétents, ultra bienveillants qui nous, comédiens, mis dans les meilleures dispositions pour ce film. Donc, effectivement, les décors, les costumes, les repérages avant, tout est géré par des gens brillants qu'on ne voit pas.
Alors, il faut dire que pour Mauvaise Herbe, tu avais déjà un très beau casting. Mais là, franchement, Gérard Darmon, Thierry Lhermitte, Ramzi Bedia, Artus, enfin franchement, il te manque quasiment personne là.
Oui, bah en fait, oui, c'est marrant de raisonner dans l'autre sens. Il te manque quasiment personne, c'est marrant. Non, moi, je suis très fier de ce casting. Je suis vraiment très, très fier et très honoré qu'il m'ait fait confiance. Parce que ce sont tous des gens extrêmement drôles et extrêmement talentueux. Je suis très fier de ce casting qui mélange trois générations de comédiens. Et non, vraiment, à chaque fois, je le redis, je les remercie de m'avoir laissé les diriger et les guider et d'avoir donné vie à des personnages que j'ai imaginés. Donc moi, c'est sûr que je suis le premier très, très heureux de ça.
Ah ben oui, c'est sûr que là, le casting vraiment est à ne pas manquer. On va recevoir d'ailleurs Lina El Arabi qui joue Albana et Pascal Demolon qui joue Decimus d'ici quelques instants. Kéron, ton meilleur souvenir de tournage ?
Ah, le meilleur souvenir, ouais. Un moment qui a eu lieu, qui m'a, moi, marqué parce que je trouve la vanne surpuissante et à chaque fois que je la raconte, personne ne comprend la vanne. Faut que je l'explique, mais ça va être un moment gênant, mais vas-y, j'y vais.
Vas-y.
À un moment donné, il y a des galets au sol ou des petites pierres, un truc pas très stable. Et Pierre Richard est en train de raconter une histoire et moi, je suis avec Rim, on l'écoute. Et à un moment donné, Rim dit, attention, Pierre, fais gaffe, il y a un bout de bois, te blesse pas. Et Pierre dit, moi, me blesser. Et voilà. Pour moi, c'est la blague la plus drôle que j'ai entendue parce que Pierre Richard, ben, voilà, c'est là que je l'explique et que tu vas trouver ça drôle. Pierre Richard, il est connu pour se blesser justement.
Oui, sur les tournages.
Et le fait que lui dise « moi me blesser » avec ce recul, eh ben, moi j'ai explosé de rire. Et cette blague ne marche jamais, personne ne rigole jamais quand je la sors, et alors que je trouve que c'est un missile intersidéral.
Ben oui, avoir Pierre Richard dans son film aussi, enfin, c'est un icône du cinéma franchement aussi.
Il est incroyable. Pierre, il est incroyable. Je pourrais en parler des heures si vous me donnez le temps. Donc,
il a une énergie de folie, encore.
Oui, puis l'énergie, puis la gentillesse, l'humanité, le sérieux, la disponibilité. J'ai que des éloges sur Pierre. Il est incroyable. C'est une très grande fierté pour moi d'avoir pu l'avoir dans le film et puis aussi d'avoir des scènes avec lui. Parce que j'ai pas des scènes avec tout le monde. Donc,
mais oui, il y a tellement de monde.
Comédiens que j'ai seulement dirigé. Et Pierre, je l'ai dirigé, mais j'ai également été son partenaire de jeu et c'est un immense comédien.
Comment est née la transformation, ta transformation physique en Brutus ? Parce que là, je vois que tout a repoussé, hein, les cheveux, les pattes, tout a repoussé, la barbe.
Ouais, bien sûr. Ouais, non, je voulais un look vraiment particulier qu'on n'avait pas vu encore. Je voulais qu'il ait un look vraiment à lui. Je me suis inspiré un peu des coupes de Vikings, de la série Vikings, avec Sylvain. Mon chef coiffeur, on a essayé plein de trucs et puis on s'est dit que juste le petit bouc là sur le menton comme ça épais, c'était vraiment vraiment nul. Donc ça allait dans le sens. On voulait un tocard en fait. On voulait vraiment un look de tocard. On voulait que ce mec-là, juste à son look, tu sentes qu'il est seul et qu'il a personne pour lui dire. Mais c'est pas possible en fait.
J'allais le qualifier de loser. Et c'est vrai que c'est un peu ça, ouais, Brutus.
Ah non, mais c'est un loser fini. C'est clairement ça. C'est vraiment un tocard. Et il est seul, il est isolé, donc il a pas de recul sur lui-même. Et puis après, on s'est dit que voilà, que la coupe de cheveux aussi, elle est intéressante parce que, en vrai, c'est une coupe de cheveux qui tu la mets à un comédien dans Viking, tu dis waouh, elle est géniale. Mais quand tu la mets à un petit mec tout maigre, c'est-à-dire moi, qui est assis avec zéro charisme, c'est un tocard, en fait. Et ça le rend attachant, je trouve. Je trouve que Brutus, il est vraiment attachant parce que justement, c'est un tocard qui va se révéler au fur et à mesure et se trouver lui-même grâce aux autres.
Et c'est lui qui va devoir essayer d'aller porter le coup fatal, eh bien évidemment, à César. On va voir comment il va se débrouiller, mais tout va pas se passer, évidemment, comme prévu. Autrement, ça serait pas drôle. Et je peux vous dire que là, ça va être très très drôle, ce qu'on va voir. À quel moment t'as pris la décision, Kéron? Parce que je sais que tu es très attaché aux salles obscures aussi. Et ça a dû être un moment difficile de prendre cette décision aussi, de pas emmener le film au cinéma, mais plutôt sur une plateforme.
Oui, difficile, parce qu'aussi, c'est l'inconnu, c'est nouveau. Et puis on se dit, on sait pas ce qui va se passer, mais on avait déjà décalé deux fois le film. Donc, à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai vu l'intérêt d'Amazon, leur enthousiasme, je me suis dit, ils étaient en train de nous sauver, sincèrement. Parce que je préfère un film qui sorte en plateforme. Et même s'il y a le regret de ne pas le voir sur grand écran, mais au moins avec des gens qui y croient à fond et qui sortent dans des bonnes conditions où on peut le défendre et où je vais être sûr qu'il va rester à l'affiche, donc entre guillemets, disponible pour le public et qui sera vu, qu'un film qui va sortir dans des conditions compliquées au cinéma alors que peu de gens y vont, on voit pas de gros cartons. Amazon nous permet de vraiment montrer le film à un plus large public. Et moi, en tant qu'auteur-réalisateur, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'un maximum de gens voient mon film. Et grâce à eux, ça va être possible.
Eh bien, on va recevoir Lina El Arabi d'ici quelques instants et Pascal Demelon. On va écouter évidemment la bande annonce du film. Kéron, bon courage pour la suite.
Merci.
Et puis, je suppose que tu penses déjà à ton prochain, quand le film appartient déjà au public. Souvent, le réalisateur pense déjà à son prochain.
Le prochain est écrit déjà. Il est déjà écrit pendant le confinement. J'attends que Brutus sorte pour me sortir Brutus de la tête et partir sur le prochain.
Eh bien allez, Brutus versus César, c'est déjà sur Amazon Prime depuis vendredi. Alors surtout, n'hésitez pas à aller le découvrir. Merci Kéron et à bientôt.
Avec plaisir, merci beaucoup.
C'est bien là la soirée compote? C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote.
Complot.
Brutus, c'est qui César pour toi?
C'est mon père.
Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein? C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonya?
Ouais. Vous voulez tuer César?
Il y a un endroit où il est vulnérable.
La carotide?
Non, c'est au Sénat qu'il est vulnérable.
Plus qu'à la carotide?
C'est toi, Brutus, qui aura l'honneur de frapper en premier.
Tu pourrais crier un truc?
Liberté! Liberté!
C'est pas possible, ça. Tu le sors d'où, lui?
Allez, coup de cœur ciné pas comme les autres. Eh bien, cette semaine consacrée à la sortie du film Brutus versus César, qui vient de sortir sur Amazon Prime. Et on a justement Lina El Arabi qui est avec nous. Bonjour, Lina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous juste après Kéron. On va continuer à parler évidemment du film avec toi, Lina. On avait eu l'occasion de se rencontrer sur le très beau téléfilm sur l'embrigadement des djihadistes sur Ne m'abandonne pas. Très très beau film. Moi, je garde un très bon souvenir en tout cas.
Eh ben oui, je me souviens. C'est vrai que c'était un beau film.
Alors, Brutus versus César, là tu joues le rôle d'Albana. Moi, première question que j'ai envie de te poser en ayant vu le film un petit peu avant sa sortie, j'ai trouvé les décors absolument magnifiques. Quand t'es arrivé sur le plateau, tu t'es dit quoi?
Je me suis dit que non, mais c'était fou parce qu'en plus l'équipe de déco, ils ont fait un travail de dingue. Ils ont travaillé en 2 semaines. C'est incroyable. En fait, quand on est arrivé, on avait vraiment l'impression d'être dans un camp romain et dans le village gaulois. On était vraiment dans un village gaulois. C'est fou. Ça allait jusqu'au détail quand on rentrait. À l'intérieur des décors, c'était incroyable. Franchement, on y était. On n'avait pas besoin de s'imaginer qu'on était en romantique. On y était.
Comment tu nous la définirais, toi, Albana?
Albana, c'est une fille qui est très féministe, qui se bat comme personne et qui, en fait, est très amoureuse, mais elle n'a pas les codes. Elle est très... En fait, tant que c'est pour faire la bagarre et tout ça, c'est une pro. Mais dès qu'il s'agit de l'amour, tout à coup, elle est très maladroite. Et du coup, elle est hyper touchante.
Alors moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est que t'enchaînes une bonne baston quand même quasiment dès le début du film, hein.
Ouais, j'ai été bien coachée et faut le dire un petit peu doublée sur ce film par Sarah Bellala, qui est une cascadeuse incroyable. Ce qui est bien sur ce film, c'est qu'on a vraiment eu le temps de travailler nos cascades. C'était génial, quoi. J'avoue que j'avais des vraies chorégraphies. Et entre nous, faut le dire, j'avais les meilleures chorégraphies, voilà.
Bon, comment ça s'est passé ta rencontre avec Kairon? Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé dans ce film?
Eh ben, moi, je le suivais depuis longtemps. J'étais vraiment fan de son humour. Je le trouvais assez fascinant comme mec. Je trouvais ça fou qu'il arrive à faire tout ça, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, Kairon, et qu'il les fait tout super bien. Et j'avoue que j'avais adoré Notre Orient, j'avais adoré Mauvaises Herbes, et j'aurais jamais espéré qu'il puisse me proposer un rôle dans son film, mais il m'a fait passer un casting, et on s'est rencontrés, et heureusement pour moi, ça a marché, mais j'étais hyper fière de pouvoir tourner avec lui.
Alors ce film était prévu au cinéma à la base, il est arrivé sur Amazon Prime vendredi dernier. Pour toi en tant que comédienne, ça change quoi? Parce que là il va y avoir une visibilité énorme aussi sur Amazon Prime, mais ça change quoi par rapport au fait qu'il n'est pas sorti en salle? Est-ce que pour toi ça change quelque chose?
Moi j'avoue que j'ai une âme de vieille, donc j'avoue que j'adore aller au cinéma et prendre mon ticket et regarder ça sur des grands écrans. Mais en même temps je crois que vraiment l'avenir c'est les plateformes, dont Amazon, et je crois que de toute façon là ouais c'est vers ça qu'on se tourne, et je trouve ça aussi agréable finalement que les gens puissent dans leur canapé voir un film comme Brutus qui est un grand film, et je suis contente que des plateformes comme Amazon mettent aussi en avant des films français, parce que j'avais quand même l'impression que sur les plateformes les choses qui étaient vraiment super c'était des choses étrangères, et que là Amazon mette en avant un film français de cette taille là je trouve ça vraiment super, je suis contente, je suis fière en fait.
On va accueillir Pascal Demelon dans quelques instants. Lina, dernière toute petite question. Tes projets pour 2020-2021, est-ce que t'as des choses qui arrivent?
Eh ben, là, je suis en répétition au théâtre pour une pièce qui s'appelle La Maison de Bernarda Alba. Et c'est une super pièce et j'espère vraiment que les gens iront la voir, parce que le théâtre, c'est super. Et donc, ça sera à partir de novembre, et après, on fera une tournée dans toute la France. Donc, on passera peut-être
en Nouvelle-Aquitaine, j'espère bien.
J'espère bien aussi. Et puis sinon, la troisième saison de Family Business, début d'année on va la tourner début d'année prochaine, je pense.
Et la saison 2 est arrivée sur Netflix aussi.
Oui, tout ça, c'est un peu pareil finalement.
Eh oui, des histoires de plateforme, comme quoi. Merci Lina, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on te souhaite bien plein de belles choses. Et puis, on va se quitter avec un nouveau petit extrait de Brutus versus César. Et on se retrouve avec Pascal Demelon juste après. Merci Lina.
Merci à vous.
Ton fils a rejoint l'ennemi. Il semble très proche d'une gauloise.
Tu vas tuer ce traître. Je te donne 2000 hommes.
On les a pas.
Je vais te donner ce que je peux.
En tant qu'esclave, ton cerveau est pas adapté. Tu peux pas comprendre ce que je dis.
Bah franchement, là, j'ai tout compris.
Non.
Brutus versus César, c'est le film à ne pas manquer qui vient d'être mis en ligne sur Amazon Prime. C'était vendredi dernier et Pascal Demelon nous a rejoint. Chose promise, chose due. Bonjour Pascal.
Hello Alain, hello aux auditeurs, aux auditrices.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de te retrouver. Pascal, Brutus versus César, tu joues le rôle de Décimus.
Voilà, exactement, Décimus. Un gars, on va dire au bon sens, qui essaie d'être près de chez vous, qui s'occupe des basses besognes, pardon, veuillez m'excuser, et voilà, qui met de l'entrain, qui met la ferveur, mais ça se passe pas toujours comme on voudrait.
Et il doit maintenir toute une équipe un peu de bras cassés, hein, j'oserais presque dire, hein, quand même.
Oui, de bras cassés, oui, essentiellement, oui, c'est pas des gars très efficaces, mais enfin, comme je le disais précédemment, il y a de l'envie. Voilà.
Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es arrivé sur le plateau? Même question que pour Lina, pour le coup, quand tu es arrivé sur le plateau au Maroc, comme ça, pour le premier jour de tournage, tu t'es dit quoi?
Je me suis dit, il fait très chaud. Et fort heureusement, on avait les sandales et la petite jupette qui nous permettaient d'aérer un petit peu le corps. Et puis, je me suis dit, quel bonheur d'être là parmi tous les camarades et d'être comme un môme dans ces décors. Voilà, insensé, beau, et puis de partir sur l'aventure de ce film. Voilà, donc beaucoup de bonheur.
Quel est ton meilleur souvenir sur ce tournage?
J'oserais dire un peu aussi comme un môme, j'en ai plein, c'est la rencontre avec Kairon, voilà. C'est un garçon pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, donc de me retrouver avec lui, qu'il m'ait tendu la main, j'ai trouvé ça touchant. Et puis, quoi dire Alain? Enfin, je veux dire... Thierry Lhermitte, Darmon, Pierre Richard, Artus, enfin tous ces gens, tous ces camarades.
Un casting incroyable.
Je veux dire, ben voilà, j'en fais partie. Donc ça, je dois dire que c'est réjouissant et comme un enfant, on se dit waouh, on va pouvoir jouer, à travailler et jouer à rire aussi parce qu'on a beaucoup ri.
Alors les films en costume, c'est assez rare, il faut le dire quand même, on en voit de moins en moins. Mais justement, quand on joue comme ça et qu'on est en costume, est-ce que c'est plus facile à se mettre dans un personnage?
Oui, ça aide, forcément. Tout participe hein, à la construction qu'on essaie d'avoir de son personnage. Voilà, oui, les décors, les costumes. Alors, les dialogues qui sont décalés, évidemment. On s'est dit que faire une version en latin, ça serait peut-être pas vendeur. Donc, on s'est plié à la langue française. Et puis, on a essayé de faire des versions pour l'étranger aussi. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Donc, oui, ça aide, forcément. Dans le port, dans la manière de voilà d'incarner son personnage.
Quand on voit les premières scènes avec toi, on se dit voilà, qu'est-ce qu'il va leur dire à cette armée de bras cassés à chaque fois. Nous évidemment, on rit, mais toi comment tu fais des fois pour maîtriser tout ça pour maîtriser un éventuel fou rire?
Ça fait partie un peu du travail parce que sinon si on se laissait aller à tous les fou rires, et ben le tournage aurait duré un an et demi. Et j'ai pour habitude de dire que les acteurs sont des menteurs, mais pour du vrai. Donc pour du vrai, si nous on n'y croit pas, personne n'y croira. Donc on y croit très fort. Et puis ça nous blinde un petit peu sur le regard du camarade qui frise un tout petit peu, le rire qui est prêt à débouler, tout ça. Et puis voilà, on y croit et on essaie de faire. Ce pourquoi on a été sollicité, on va dire.
Bien sûr. Dernière petite question avant de se quitter. Brutus versus César, ça vient d'être mis en ligne sur Amazon Prime. Est-ce que tu as d'autres projets pour cette fin 2020, début 2021? Est-ce qu'on va te voir à télé, au cinéma, au théâtre?
Eh ben rapidement, il y a un autre film que j'ai eu beaucoup de bonheur à faire, celui d'Audrey Dana, qui devait, comme celui de Kéron, sortir là cette année. Donc là, la date de sortie a été reculée, je ne sais pas quand, où j'ai eu le bonheur de retrouver Ramzi Bedia et Thierry Lhermitte. Voilà, ce sont deux camarades de jeu que j'avais hâte de rencontrer dans le travail. Ça aussi, ça fait partie du cadeau de cette aventure. Donc voilà, attendre la sortie de ce film en espérant que l'un et l'autre, le film de Kéron et celui d'Audrey, puissent rencontrer leur public. Ça, c'est, voilà. C'est, on va dire, les projets immédiats après.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Voilà. Merci, mon cher Pascal, d'avoir été avec nous une nouvelle fois.
Merci, Alain.
Et puis, on va continuer, évidemment, eh bien, à écouter un petit extrait de Brutus versus César. C'est déjà en ligne sur Amazon Prime. C'est le film à déguster de cette semaine. Merci à toi. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Te plaît, Albana?
Un peu.
Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal.
Waouh!
Ah, t'es touché?
Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou.
Une torche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge.
Bon. Qu'est-ce que t'as fait?
Bah, 12 coups de fouet, hein?
Non, pour la toge.
Ah, majesté. Oh, c'est chier.
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia, cette semaine, lundi 28 septembre, Non-Stop People lance une nouvelle émission inédite. Evelyne Thomas, rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 12h30. Chaque jour, Evelyne Thomas recevra une personnalité en tête-à-tête pour une interview intimiste de 26 minutes. Sur le plateau, l'animatrice mettra à l'honneur les personnalités, leur parcours, leur carrière et les différentes étapes de leur vie. L'émission se déroulera en trois parties, le passé, le présent et le futur des invités. Non-Stop People est disponible, je vous rappelle, en linéaire et en replay sur les offres Canal+, dans l'univers Canal. Et en tournage pour France 3 à Besse et Saint-Anastaise et sa région, Cambrousse, le téléfilm avec Michel Simès et Dunia Cossens. L'histoire est bien d'un village auvergnat, l'installation d'un médecin en plein désert médical marque le sursaut d'un territoire délaissé que ses habitants quittent peu à peu, mais la jeune diplômée parisienne et ambitieuse est contrainte de partager le cabinet du vétérinaire local, enfant du pays revenu depuis peu. Après une carrière citadine et un divorce à ses côtés, elle va découvrir la dure réalité d'une France oubliée. Résistera-t-elle? Un téléfilm réalisé par Thierry Benisti. Et puis, justement, tournage d'un nouvel épisode du Capitaine Marleau en ce moment, du côté de la Charente-Maritime à Royan, toujours réalisé évidemment eh bien, par José Dayan, qui est justement maintenant notre invité.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, eh bien, on retrouve une des réalisatrices les plus grandes de la télévision française, qui nous a offert les plus belles sagas et puis surtout qui nous offre aujourd'hui la série la plus regardée en prime time sur France 3, le capitaine Marlowe. C'est José Dayan qui est avec nous. Bonjour José.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir, José, parce que là démarre donc le tournage d'un nouvel épisode du capitaine Marlowe et en Nouvelle-Aquitaine du côté de Royan.
À Royan, avec évidemment Corinne Maziero, Arnaud Ducré, Caroline Proust et Béatrice Dalle et Astrid Bergès. Voilà, donc je suis
un beau casting.
Oui, très beau.
Alors, le capitaine Marlowe, c'est un succès incroyable. 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, entre 7 et 8. Allez,
8, oui,
allez, 8 avec les replays, c'est vrai.
Non, 8
même
sans
pas
les replays.
Ah, bah alors, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un succès incroyable. Ouais. Est-ce qu'on pouvait imaginer ça au départ quand vous avez tourné Entre Vents et Marées?
Non, mais Entre Vents et Marées, il y avait l'apparition de Corinne dans le capitaine Marlowe, mais c'était pas une série avec elle. Et c'est à partir de Entre Vents et Marées que j'ai proposé qu'on fasse une série autour du capitaine Marlowe, oui.
Ben, c'est une réussite.
Ben voilà.
Et ça ne se défait pas aujourd'hui entre Corinne et vous là-dessus.
Non, on s'entend très bien.
L'histoire est belle. Et ouais. On est à combien d'épisodes aujourd'hui?
Vous avez le 22e.
22e épisode.
Voilà.
C'est absolument incroyable le succès de cette série. Comment vous l'expliquez, vous, José?
Je pense que c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à la personnalité de Corinne, à son originalité, au fait que cette série ne ressemble à aucune autre parce qu'elle est toujours entourée de guests très célèbres et de très grands acteurs et qu'il y a donc des face à face qui ne sont pas quotidiens à la télévision. Voilà.
Alors, il est vrai qu'il y a de nombreux guests à chaque épisode du capitaine Marlowe, mais est-ce qu'il y a un guest que vous rêvez aujourd'hui qui n'a pas encore participé
pas
à la
encore,
série
vous
que
savez,
vous rêvez?
J'ai eu la chance d'avoir Gérard Depardieu.
Bah, c'est pour ça.
Isabelle Adjani, etc., etc. Donc, non.
Vous avez eu tout le monde que vous vouliez?
Oui. C'est en fonction des scénarios. Et puis voilà. Et là, on choisit. Et là, je suis très heureuse de tourner avec Béatrice Dalle et Arnaud Ducré. Voilà.
Il y a combien de nouveaux épisodes pour cette saison?
Il y en a 4 par an, hein.
Ah oui. Voilà. Donc toujours 4.
Voilà. Là, c'est le dernier de la saison. Voilà.
Alors, vous faites tout un tour de France. À chaque fois avec le capitaine Marlowe, on a eu beaucoup d'épisodes nous tournés en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne. On en a eu en Gironde, on en a eu à l'île de Ré. Et c'est vrai que vous nous offrez, en fait, un petit panorama des plus beaux paysages de France avec cette série. Parce qu'elle voyage, le capitaine Marlowe.
Elle voyage, oui, parce qu'elle est gendarme. Alors, en fait, elle officie jamais à Paris, pratiquement. Donc, elle est toujours en province.
Voilà. Elle est toujours dépêchée sur des histoires.
Voilà.
Que d'autres ont du mal.
Elle change toujours de lieu et de gendarmerie. Oui, c'est ça qui est intéressant. Elle n'a pas d'attache, quoi. Voilà.
Est-ce qu'elle improvise de temps en temps, Corinne?
Elle improvise beaucoup, oui. Enfin, oui, bien sûr, oui.
Ce qu'on le ressent, nous, en tant que téléspectateurs.
Dans les dialogues, il y a beaucoup d'elle, quoi. Bien sûr. Oui, absolument. Et c'est ça qui fait aussi le charme de son personnage, sa particularité.
Vous avez fait tellement de belles mini-séries pour la télévision. Vous nous préparez, je crois, un gros projet, Diane de Poitiers,
avec Isabelle Adjani. Oui, je suis très, très heureuse de ce projet. Voilà, c'est écrit par Didier Decoing. C'est pour France 2. Et ce sont deux films de 90 minutes chacun qu'on va faire en début 2021. Voilà.
Qui sera certainement un des événements de la rentrée, du coup, 2021 pour France Télévisions.
J'espère, oui, je le pense.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, José? Un bon tournage à la côte royanaise?
Un bon tournage à Royan et un bon avenir à Diane de Poitiers. Voilà.
Ben c'est chouette, c'est Merci. Déjà très bien. Merci beaucoup, José, et à très bientôt.
Indiscrétion, scoop. News, tout de suite, l'infomédia.
Et enfin, dans l'infomédia, querelle de voisinage, un reportage d'Olivier Sibyl, Guillaume Marc et Benoît Sauvage, diffusé dans Envoyé spécial. Ça sera le jeudi 8 octobre prochain sur France 2. Un programme présenté par Élise Lucet en première partie de soirée. Voisin bruyant et mal taillé, conflit avec un entrepreneur, une compagnie aérienne ou un fournisseur d'internet. Depuis le 1er janvier 2020, pour tous les litiges du quotidien inférieur à 5000 euros, il n'est plus possible d'aller directement au tribunal. Le recours un conciliateur de justice est devenu obligatoire. Objectif, désengorger les tribunaux, d'où le traitement de ces affaires qui peut prendre parfois des années. Et on va donc se rendre à Moulins avec François, retraité, qui tente au quotidien de renouer les fils du dialogue avant que les situations ne dégénèrent. Et Claire, une des rares conciliatrices à exercer une activité professionnelle en parallèle, qui traite 120 dossiers par an. Et bien, une passionnante enquête à découvrir donc le 8 octobre prochain dans Envoyé spécial. Et comme vous le savez, Jean-Pierre Pernaut a annoncé son départ du 13h de TF1 et la surprise générale, c'est donc l'actuelle présentatrice du 13h de France 2 qui va rejoindre TF1 à partir de début janvier pour présenter l'édition de la mi-journée à 13h en semaine. C'est Marie-Sophie Lacaro. Elle avait officié sur France 3 Midi-Pyrénées et avait atterri en titulaire pour le journal de France 2. Elle rejoint donc TF1 et succédera à Jean-Pierre Pernaut et elle présentera donc ainsi le journal de la mi-journée le plus regardé d'Europe. Une belle promotion pour Marie-Sophie Lacaro. On lui souhaite bien sûr plein de bonheur dans ses nouvelles fonctions. Et on va donc se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de Chut, on écoute la télé avec bien notre ami Benjamin Biolay. On va parler musique et cinéma avec la sortie du film Les Apparences. Alors surtout ne bougez pas, on revient, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, dernier coup de cœur ciné pour nous. Eh bien, cette semaine, juste avant d'accueillir Benjamin Biolay pour la sortie du film Les Apparences, on va parler évidemment musique aussi avec Benjamin. On va écouter tout de suite la bande-annonce Les Apparences. Ça sort mercredi au cinéma.
Vous savez où est passé Henri ?
Je crois qu'il est allé voir les enfants.
Encore debout ?
Bah oui, comme tu vois.
Chérie, c'est pas la première fois que je suis accaparé par le train.
C'est sûr. Tu te sens très loin de moi. On fait des trucs chacun de notre côté.
Je suis là, je suis près de toi.
T'es sûr qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme ?
Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destinée.
Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école.
Je me demande bien qui sera l'heureux élu.
Tu sais, Malo, jamais on ne se séparera avec ton père.
Ça chamboule tes plans ?
Non, non, pas du tout.
C'est ça qui t'intéresse, en fait ? Le prestige, les apparences ?
Allez, Les Apparences, c'est le film à ne pas rater, d'autres films coup de cœur qui sortira mercredi dans les salles. Et c'est Benjamin Biolay qui est avec nous pour en parler. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Je suis très très heureux de vous avoir avec nous. On va parler évidemment de l'album Grand Prix aussi, de la tournée aussi qui s'annonce pour cet automne, Benjamin. Mais d'abord Les Apparences, Henri Montlibert, ce mari trompeur, ce mari trompé. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Et cette femme, incarnée par Karine Viard, qui va tout faire pour sauver les apparences au sein de ce microcosme autrichien dans la ville de Vienne. Alors première question qui me vient, moi, quel souvenir déjà vous gardez de ce tournage à Vienne en Autriche ?
En vérité, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est à Bruxelles où on a tourné aussi, et c'est vraiment les premières scènes avec Karine où c'était une rencontre très forte, je trouve, et puis c'est une actrice tellement prodigieuse que j'ai pris un plaisir fou à jouer. Et on a tourné toute la partie un peu plus thriller à Vienne, donc il y avait un côté assez lugubre, il faisait froid, la ville n'était pas très animée, et le Danube était gelé, etc. Donc j'en garde un souvenir qui doit être trompeur, qui doit être trop influencé par le film, par ce qui se passe dans le film. Ouais.
Comment pourrait le définir Henri ?
Bah, c'est un chef d'orchestre qui a réussi, qui est devenu une des vedettes de ce métier, et qui est quelqu'un de très mutique et finalement très très égocentrique, et qui ne pense qu'à lui. Moi je le trouve très... J'ai de l'empathie pour lui, mais je ne le trouve pas spécialement attachant. Henri Montlibert, c'est un type qui vit dans la communauté d'expatriés français, donc avec tout ce que ça, parce que les expats entre eux, ils sont très 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 soudés, mais en même temps, le premier qui déconne, il se fait rayer de la carte, quoi. Et donc il est dans ce monde et il en a une des vedettes, et on voit qu'il est un peu heureux de son parcours. Et
il a rien trouvé de mieux, évidemment, que de tromper sa femme avec l'institutrice de son fils.
Je crois que c'est ça.
C'est pas mal, incarné par Laetitia Doche, aussi, qui fait une très belle partition. Vous partagez pas mal de scènes tous les deux aussi,
bien sûr,
dans le film.
Ouais.
Quel est votre meilleur souvenir sur ce tournage ?
J'ai beaucoup aimé ce tournage, donc du coup j'en ai plein des bons souvenirs. Et... Après, la toute dernière journée de tournage, j'étais avec Laetitia justement sur le bateau, là, et j'avoue que cette espèce de croisière slash tournage sur le Danube, c'était quelque chose d'assez beau, assez féerique.
Alors moi je peux vous dire, vous allez voir le film, on va pas spoiler évidemment, mais je peux vous dire que Benjamin a mouillé le maillot.
Ah oui.
Alors, il est comment le Danube? Est-ce qu'il est froid?
Il est gelé. Il y a un courant de Maboule dans ce fleuve. C'est très impressionnant. On a l'impression d'être dans l'océan. Il y a vraiment un courant très fort et c'était très très froid.
Il a fallu refaire la scène ou?
Bah oui, toute la journée.
Oh là là.
Bah oui, mais c'est un souvenir à la fois horrible physiquement, mais super parce qu'à la fin de journée, quand c'est fini, on a quand même le sentiment du devoir accompli. On se dit, bon, bah, je l'ai fait, je suis passé dans le Danube.
Il est comment, Marc Fitoussi, en tant que réalisateur?
Il est extraordinaire, il est très sympathique déjà. Il arrive à dire les choses avec l'humour. J'aime beaucoup ce genre de personnage. C'est-à-dire, quand ça va pas, il vous le dit sous la forme d'une vanne ou d'un conseil qui paraît peut-être un peu décalé. Et puis, il adore les acteurs et il est très précis, très... C'est un homme adorable, vraiment. Franchement, il ne change pas trop d'humeur. Et il tient vraiment à son film, il tient vraiment à ce que les acteurs soient dans des conditions optimales. Vraiment, il aime les acteurs.
On vous voit de plus en plus au cinéma. On a vraiment l'impression que vous y prenez goût.
Oui, beaucoup. Ouais. Mais c'est pas une récréation, c'est une autre facette de ma vie.
Ben oui.
Et ça me fait oublier ma vie de musicien, qui est lourde, qui est une vie aussi de un peu de chef d'entreprise. En tournée, je suis un peu chef d'entreprise de plein de gens. C'est beaucoup de responsabilités. Et là, moi, sur un tournage, j'arrive et je suis en rythme libre. Moi, ce qu'on me demande, c'est de jouer ce chef d'orchestre. Et rien d'autre, quoi. Et je trouve ça très agréable.
Le tournage qui a eu lieu dans cet opéra, c'était à Vienne?
Non, c'était à Liège.
C'était à Liège, en Belgique.
Ouais, c'était à l'opéra.
Qu'est-ce que c'est beau?
Ouais, c'était impressionnant parce qu'il a fallu que je dirige l'orchestre pour de vrai en plus. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis très petit. Et ouais, tout était beau. C'était un très bon orchestre. Tout le monde était en tenue de gala. Il y avait un côté si impératrice, complètement hors du temps.
Bien voilà, moi je connais notre prochain invité pour le violon sur le sable à Royan, Benjamin Biolay, pour diriger tout ce petit monde sur le sable. Ça serait un chouette souvenir aussi. Benjamin, il y a aussi Grand Prix.
Oui.
Évidemment, c'est l'album qui vient de sortir. On va vous retrouver en tournée, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Ça sera aussi le 21 et 22 octobre à Nantes. Il y aura le 30 octobre à l'Olympia. Je pense que ça, c'est toujours des dates mythiques.
C'est toujours intéressant.
Pour les chanteurs. Le 20 janvier à Angoulême, où vous êtes venu présenter pour la première fois les apparences au mois d'août. Justement, il y a 3 semaines au festival. Et puis, il y aura le 25 février à Guéret, non loin d'ici, et le 22 avril au Grand Théâtre de Limoges. Ça va faire du bien de remonter sur scène, non?
Ça va faire un bien fou. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. J'ai fait une tournée avec Mélodie Poupeau qui était géniale, mais c'était déjà il y a 2 ans. Et avec mes chansons, ça fait très longtemps. Et puis, tous mes amis, musiciens, techniciens, ils ont vraiment besoin de travailler. Pas que pour des raisons économiques, mais évidemment pour des raisons économiques. Et puis les gens ont besoin de musique, on a besoin de retrouver ce qui procure un peu de joie de vivre, parce qu'en ce moment, on en est privé. On sait bien qu'on nous punit pas, hein, que c'est une nécessité.
Bien sûr.
De santé publique. Mais c'est vrai que tout ce qui est un peu agréable, moi, en tous les cas, parce que, par exemple, je suis pas né à Paris, mais si j'aime y vivre, c'est parce qu'il y a une vie sociale qui est forte. Là, quand il y en a plus, je me demande ce que je fous là, je vous dis la vérité, quoi.
Ça va être le bonheur de retrouver, en tout cas, le public.
Merveilleux. Puis j'ai pu faire quelques petits concerts. Même les gens masqués, moi, ça me dérange pas du tout. Je le dis, c'est pas du tout un problème. J'ai entendu plein de gens se dire, ouais, ça va être bizarre. Non, c'est pas bizarre.
Non, vaut mieux pour se retrouver, c'est le prix à payer pour se retrouver.
Et ça va durer le temps que ça durera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il faut le banaliser, en fait, je trouve. Plutôt que toujours dire, ouais, mais les masques, ça vous embête pas. Non, moi, je le dis, ça m'embête pas d'ailleurs. Plus ça va, plus j'arrive à lire des expressions sur les yeux que je lisais pas avant, en fait.
Il y aura des chansons, évidemment, du nouvel album Grand Prix, mais aussi des anciennes.
Toujours. Moi, j'aime pas l'idée d'aller jouer son nouvel album et de punir les gens qui ne l'ont pas acheté, par exemple.
Vraiment, oui.
Vous partez en tournée, c'est pour tout le monde.
Donc, il y aura des anciennes aussi.
Bien sûr.
Il y aura quelques petites surprises à l'Olympia, des guests qui viendront s'inviter sur scène avec vous. Il y aura des petites choses ou pas?
J'espère, je pense. Ouais. Comme c'est encore pas très concret, je vous dis la vérité. On n'ose pas encore s'inviter les uns les autres à venir faire des duos, des choses comme ça, parce qu'on a peur de rappeler 10 jours en disant désolé, mais le préfet a annulé tout ça. Et j'adore l'Olympia, mais j'aime toutes les salles. Tous les soirs, c'est un partenaire différent et c'est le public. Et il peut y avoir des surprises un peu partout dès que c'est possible.
Je sais, vous aimez collaborer avec beaucoup d'artistes, que ce soit pour leur écrire des chansons, que ce soit pour faire des duos. Aussi, vous aviez signé d'ailleurs le premier très bel album d'Élodie Frégé, notamment, et plein d'autres comme ça. Est-ce qu'il y a des collaborations aujourd'hui encore dont vous rêvez, Benjamin, qui se sont pas faites?
Ah oui, forcément. Là, je vais, comme d'habitude, je vais sécher sur la question. C'est-à-dire que ça va pas me venir. Alors quand je suis tout seul, je sais avec qui j'aimerais travailler. Mais ouais, non, mais c'est vraiment. Puis il y a des gens qu'on connaît peut-être pas encore, que avec qui j'adorerais travailler dans 6 mois. Et non, mais je trouve que c'est une belle scène musicale, la scène francophone. Qu'elle s'enrichit, qu'elle se réinvente. Et je trouve que c'est une belle période de musique. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur de pas faire de concert que y a plein de gens qui ont des choses à dire, quoi.
Bon, je vous rappelle que Les Apparences, en tout cas, ça c'est mercredi au cinéma.
Oui.
Allez le voir avec Karine Viard et Laetitia Doche à vos côtés, bien évidemment, et sous la houlette de Marc Fitoussi. L'album Grand Prix est disponible, évidemment, dans les bacs. Et puis, on se retrouve le 21-22 octobre à Nantes, en concert. Le 30 octobre à l'Olympia, le 20 janvier à Angoulême, le 25 février à Guéret. Et le 22 avril au Grand Théâtre de Limoges.
On espère et on y croit.
On peut pas se quitter sans Comment est ta peine, évidemment. Ouais, on va se l'écouter plaisir. Maintenant. Ouais. Benjamin Biolay dans Chut, on écoute la télé. Merci Benjamin et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir eh bien, de vous retrouver pour une nouvelle émission inédite. Avec attention, les yeux, messieurs, rien que pour vous, elle sera là. Oui, je l'attends depuis 10 ans dans cette émission. Elle a répondu présente à l'invitation. Clara Morgan sera notre invitée exceptionnelle. Elle nous parlera évidemment de ses projets. À vous, les brocanteurs, c'est pareil, vous êtes heureux puisque nous allons recevoir Pierre-Jean Chalençon qui sera également notre invité exceptionnel dans Chute, on écoute la télé. L'humoriste Constance également sera avec nous dans l'émission. Vous avez vu, ça va être encore une belle émission qui vous attend lundi prochain dans Chut, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 8h30, 14h30 et 18h45 sur Mélodie. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications Chut, on écoute la télé pour iPhone et Android. Je vous retrouve également lundi prochain à 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Mélodie FM.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Saint-Magne de Castillon, votre spécialiste culturel. Produits techniques, téléphonie et multimédia sur 1000 m² aux portes de Saint-Émilion.
Chut, on écoute la télé avec votre boucherie artisanale 33 à Arvers. Viande 100% française et pour un budget maîtrisé, achetez en lot à partir de 35 euros pour mieux en vivre toute l'année. Votre boucherie artisanale 33 vous attend 12 routes de Bordeaux à Arvers. Et passez vos commandes directement sur le site boucherie-artisanale-33.com.